Voilà. Donc, on peut être reconnu pour sa vraie valeur et être haï en même temps et rejeté. On peut être reconnu pour sa vraie valeur, être aimé, bien que l'on ne soit pas bien compris. Jésus n'a pas été bien compris par ses apôtres, par ses disciples, par les saintes femmes, mais tout de même, ils ont adhéré. Lisez le chapitre 24 de Luc, vous allez voir, notre cœur était brûlant lorsqu'il nous parlait des Écritures. Donc, sachez bien que c'est dans les Écritures que votre cœur s'animera et trouvera un feu, un réel feu authentique, personnel, profond, pour aimer Jésus. Comme dans Luc 24 avec les disciples d'Emmaüs. Je vous invite à méditer aujourd'hui, demain, après-demain, ces textes. Ils sont essentiels. Alors, il s'est passé encore quelque chose de mieux, c'est que durant les 40 jours, jusqu'à la montée de Jésus au ciel, durant les 40 jours, Jésus s'est manifesté plusieurs fois à ses apôtres. Et il a fait la même chose. Il a parlé avec eux, il les a instruits. Il a circulé jusqu'en Galilée, etc. Il a montré sa puissance, sa sainteté, et le fait qu'il soit ressuscité était quelque chose d'époustouflant pour eux. Complètement, ils étaient subjugués. Subjugués sous un joug nouveau. Le joug du ressuscité était venu sur eux. La parole du ressuscité était venue sur eux. Je suis allé donc en 2008 à cet endroit où il y a un tombeau. Vous savez que, au point de vue des touristes, il y a deux tombeaux. Il y en a un en plein dans la ville où tout le monde se pousse, où les Arméniens, etc., les orthodoxes, les catholiques se battent pour un mètre carré, hein, et veulent absolument revendiquer l'endroit du Saint-Tombeau de Jésus. Et donc, dans le sol, il y a une espèce de petit verre. Et pour regarder en profondeur à travers le verre, le tombeau de Jésus, c'est la mère de Constantin qui avait décidé qui avait décidé que c'était là.
Non, elle n'avait pas décidé, mais c'était l'endroit où la tradition disait que...
La tradition le disait, et donc la mère de Constantin a adopté cette idée.
Et il est probable que c'était là.
Alors, moi j'ai visité l'autre endroit, où le Garden Tombe, où il y a la tombe, avec deux petites pièces dans le rocher, et la pierre qui roule. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'est pas loin du Golgotha, du rocher du Golgotha. On est à 60 ou 80 mètres, pas loin. Il faut regarder ici, hein, il se passe quelque chose. C'est assez étonnant, le tombeau et le rocher du Golgotha ne sont pas à grande distance. Même pas 100 mètres, je vais dire. Dans l'endroit, il y a quelque chose qui m'a un petit peu touché profondément. C'est le fait qu'il y a une citerne. C'est une citerne, l'ouverture n'est pas grande, elle a été creusée dans le rocher, et c'est une citerne qui sert, à accumuler de l'eau durant les périodes de pluie, d'orage, pour arroser un jardin, un champ, durant peut-être un an, 6 mois, 15 mois. C'était une citerne de 1000 mètres cubes, taillée à la main. Et évidemment, quand Marie de Magdala arrive au matin, le grand matin c'est 5h30, le matin le soleil apparaît à 6h10, 6h15, très vite. Eh bien, c'est donc dans la pénombre que les femmes arrivent et rencontrent un homme, évidemment, qu'elles ne peuvent pas le distinguer. C'est par la voix qu'elles vont le reconnaître. Et donc, elles ont cru que c'était le jardinier. Et sans doute, y en avait-il d'autres, parce que le jardin était grand. Et donc, il fallait remplir des cruches et porter, préparer toutes ces cruches. Et dès qu'on pouvait marcher sans écraser les légumes, savoir où on mettait les pieds, et on allait arroser avant que 10h du matin, évidemment, il était trop tard pour faire ça. Le soleil est assez costaud là-bas. Moi, j'ai été frappé par ce détail du jardinier. Et donc, j'ai bien compris que Marie de Magdala n'était pas folle. Elle n'était pas perturbée. Et c'était pas une fofolle. C'était une femme de raison, une femme qui savait réfléchir et qui avait une grande vertu. le courage d'aller à un endroit sans les hommes. Un endroit litigieux. C'est un endroit vraiment où les responsables religieux et les autorités romaines ne sont pas fiers et ne sont pas contents. Elles ont le courage, elles ont l'amour. Même si elles ne comprennent pas tout, elles ont en eux l'amour. Et ça, c'est la caractéristique de toute personne qui vient à Jésus. Il faut un amour du vrai, un amour du saint, un amour de l'unique, du beau. Et un jour, on se rend compte que c'est Jésus. La manifestation plénière de Dieu sur terre, la plénitude de la grâce et de la vérité, comme dit Jean dans chapitre 1, verset 14, c'est Jésus-Christ. Alors, à Dieu, les angoisses et les tristesses, évidemment. Le texte ne va plus parler d'angoisses et de tristesses, il va parler des apôtres qui sont en train de discuter et de se rebeller contre les femmes. Vous savez, comme garantie de l'authenticité des Écritures, il n'y a rien de tel. Tous les apôtres reconnaissent qu'ils ont négligé les femmes et les ont critiquées. Et ils le mettent dans leurs écrits, dans une civilisation où la femme n'a pas grand-chose à dire. Et donc, quoique chez les Juifs, elle a quand même une place très importante. Hein. Mais ce qu'il y a, vis-à-vis d'un événement pareil, ce n'était pas à des femmes d'y aller. Ce n'était pas à des femmes de témoigner. Et même si on avait affaire à des machos, ils n'auraient pas dit que c'était les femmes qui allaient au tombeau, ils auraient dit que c'était eux. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté honnêtement leur misère. Leur misère, leur incrédulité, leur faiblesse, leur lâcheté. Ils étaient poltrons. Nous les hommes, même dans nos civilisations aujourd'hui, nous sommes souvent des poltrons. Je veux arriver à des messages concrets aujourd'hui à Pâques. Nous sommes souvent des poltrons, des timorés. Est-ce qu'on va trouver des hommes qui s'engagent pour Christ et se mettent à son service? Il faut qu'il y ait quelque chose de miraculeux pour que reviennent des hommes au service de Dieu dans ce continent d'Europe et perverti. On trouve à travers le monde beaucoup de missionnaires américaines, etc., anglaises, françaises, belges, enfin, mais dans les missionnaires, c'est 2 femmes sur 3 missionnaires. C'est pas 2 hommes et 1 femme. Et chez les églises, il n'y a pas de pasteur. Des fois, il n'y a même pas d'anciens. Et actuellement, avec ce qui se passe avec le Covid, on a des églises qui se disputent, qui ne se réunissent plus régulièrement, qui sont en train de dégringoler. Mais où va-t-on? La résurrection de Jésus ne mérite pas un tel camouflet. La résurrection de Jésus, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, ne mérite pas d'avoir un peuple si faible et pécheur. Repentons-nous, il faut se repentir, il faut changer avant qu'il soit là, qu'il arrive. Je remercie évidemment tout ce qui a été dit par Vincent. Et moi, je reprends la suite de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les deux, trois jours précédents. L'onction est majeure. L'onction, je vous en ai parlé mercredi et vendredi, l'onction sur Jésus par cette femme est majeure. Elle percute les cœurs des raisonneurs, les disciples, elle percute le cœur du méchant, du jaloux, Judas. Et cette femme a mis une fortune, 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Jean chapitre 19, verset 39. Jean chapitre 19, verset 39. Est-ce que vous feriez une telle dépense, vous, une année de salaire pour honorer quelqu'un? Le petit menuisier de Nazareth, le prédicateur, haï de tous, qui va être crucifié et rejeté, qui est là, et qui n'est, et tout le monde est en train de le lâcher. Cette femme est exceptionnelle dans son discernement spirituel. Cette femme est exceptionnelle dans son geste prophétique. Pour la véritable mort de Jésus, qui a une vertu sacrificielle, pour une vertu rédemptrice pour tous les humains, cette femme a mis le paquet pour honorer une mort d'une telle valeur. Ce qui détruit la thèse d'un Jésus qui n'est pas mort, d'un Jésus qui ne serait pas mort, qui s'est enfoui du mont des Oliviers, qui est parti au Japon, etc., peu importe, et toutes sortes de thèses, et où quelqu'un d'autre a été arrêté à sa place et crucifié à sa place, on trouve ça dans le Coran, eh bien, dans le New Age, cette thèse d'un Jésus qui n'est pas mort n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas seulement cette femme qui verse du parfum sur la tête de Jésus. Il n'y a pas seulement cette femme. Alors, regardez bien. En répandant ce parfum, Matthieu 26, 12, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Le témoignage de la sépulture est essentiel. Tout ce qui tourne autour du parfum est lié à la dimension de la sépulture. Retenez bien, analysez tous ces textes. La sépulture, l'ensevelissement de Jésus, est majeur dans les événements de la passion de Jésus. Parce que c'est cela qui dénie les théories modernes d'un Jésus qui ne soit pas mort. Regardez dans Jean chapitre 12, verset 7. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Elle l'a gardé, elle en a versé sur Jésus, mais elle l'a gardé le trois quarts peut-être, le 9/10. Donc, cette femme avait une véritable perception de la réalité de la mort de Jésus et de son importance. Encore une fois, c'est une femme. Vous croyez bien, n'est-ce pas, que Paul dit dans Galates qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni païen. Tout de même, ouvrons les yeux. J'ai ici, sur ma table, à côté de mon petit téléphone, de mon smartphone, un document me montrant des jeunes femmes en Iran qui ont la foi en Jésus. Mais elles sont magnifiquement belles, belles du Seigneur Jésus dans leur âme, dans leur cœur. C'est des vraies femmes, sauvées par la grâce de Dieu, dans une dimension tragique. Un peuple qui tue, qui assassine. Alors, nous avons un témoignage aujourd'hui, encore, qu'il y a des femmes de cette valeur. Honneur aux femmes qui passent souvent devant les hommes pour leur montrer l'exemple. Regardez dans le livre des Juges avec Déborah. Déborah! Lisez dans ce livre. Regardez l'exemple de Marie au noce de Cana. Elle dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Et puis elle s'efface. Elle s'efface. Elle a tout compris. Quand Jésus lui dit aux noces de Cana, Jean chapitre 2, « Mon heure n'est pas encore venue, mais l'heure, ici, dans Matthieu 26, est arrivée. » Gardez pour le jour de ma sépulture. Dans Jean 12, verset 7. Et au Jean 12, verset 39, 30 kilos de myrrhe d'aloès. Vous imaginez, allez acheter ça aujourd'hui, Vous allez voir, si vous ne devrez pas vendre tout ce que vous avez, faire un emprunt à la banque et le rembourser en 10 ans. Si c'est de la grande qualité, si c'est de la grande valeur.
Cela correspond à peu près à la quantité utilisée pour des funérailles royales.
Un roi si humble, le roi des rois, reconnu par cette femme. Le vrai roi n'a pas besoin des artifices du monde.
Par Nicodème, c'est Nicodème qui a parlé.
Et Nicodème, Joseph d'Arimathie, sont deux hommes courageux qui ont été trouvés Pilate. On peut reconnaître que ces deux hommes ont relevé la barre. Oui, ils ont relevé la barre concernant le sexe masculin. Heureusement pour nous, chers amis. Si vous voulez lire, je n'irai pas le lire aujourd'hui, mais si vous voulez lire et vous instruire sur les parfums, sur les onctions, vous allez dans Exode, chapitre 30, versets 22 à 38. Exode, chapitre 30, versets 22 à 38. Et vous allez voir à quel point l'onction, les parfums, le myrrhe, l'aloès, la casse, etc., sont des parfums de très grande importance dans le judaïsme, pour honorer Dieu. Je voudrais aussi attirer votre attention que tous ces parfums étaient destinés au sanctuaire. Et tout d'un coup, voilà qu'on met un parfum à l'égard de Jésus, avant et après sa mort, un parfum de grand prix, comme si c'était lui qui était devenu le sanctuaire. Eh bien oui, l'Éternel devient le sanctuaire. Ésaïe, chapitre 8, versets 13 à 14. Ésaïe, chapitre 8, versets 13 à 14. L'Éternel devient le sanctuaire lui-même. Ce n'est plus un tas de pierres. Et l'Éternel est là, cette femme l'a reconnu. Quel cœur, quelle foi, quelle grâce. C'est formidable. Dans Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi ? En 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Ils crurent à l'Écriture. Comprenez bien que dans Luc chapitre 24, quand Jésus prend toutes les Écritures, et pendant les 40 jours qui précèdent la montée au ciel, il s'agit de bien les éclairer, parce que c'est eux qui ont la tâche de propager la bonne nouvelle. Le vrai temple, c'est le corps de Christ. Où pouvons encore nous voir une affirmation de ce genre ? Apocalypse, chapitre 21, verset 3. Apocalypse, chapitre 21, verset 3, nous dit que le tabernacle de Dieu vivant sera sur terre. Tabernaculum, en latin, ça veut dire tente. Or, la tente dont il s'agit, c'était le sanctuaire des Juifs dans le désert, avec l'Arche d'Alliance. C'est le sanctuaire divin. Et donc, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 3, j'entendis du trône une forte voix qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous voyons bien ici que la royauté, le caractère sacré de Jésus, nous permettent d'avoir la victoire sur la mort et la maladie. C'est en sa personne nous avons la victoire sur la douleur, la mort, le chagrin, toutes les catastrophes de ce monde. Il est dit ceci, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Ici, Dieu le Père prend position. Dieu le Père prend position. Pour vous, pour moi. Chers amis, comment pouvons-nous négliger un tel salut? Comment pouvons-nous négliger une telle grâce? Comment pouvons-nous prendre les affaires de Jésus pour de la fadaise? Mais oui, si on est mal instruit, si on a été égaré par toutes sortes de choses, oui. Mais si on va dans les Écritures, si on recherche quelqu'un qui veut bien vous enseigner les Écritures, vous pouvez trouver l'essence même de la parole, de la révélation. Et le Saint-Esprit peut vous aider. Dans certains pays, il n'y a personne pour l'expliquer. Et ils reçoivent la grâce de la lumière sur la parole. Ici, il faut pédaler des années avec les personnes pour qu'ils arrivent à cette lumière. Si je prends bien soin de Apocalypse, chapitre 7, verset 14, verset 13. Apocalypse, chapitre 7, verset 13, jusqu'au verset 17. L'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Chers amis, nous avons besoin d'être blanchis dans le sang de l'agneau. Voici le sens de la Pâque. Déclarer pur, laver tous nos péchés, toutes nos souillures. Renouveler intérieurement et extérieurement par Jésus lui-même. Par sa mort, sa passion et sa résurrection. Blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Dressera la tente, le tabernacle, nous l'avons lu dans 21, Apocalypse 21, c'est Christ. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Une telle autorité dans les paroles mérite de notre part une grande humilité. Une grande humilité, chers amis. Ne jouons pas trop. N'attardons pas. Ne reculons pas la date du choix, de la conversion, de l'acceptation de Jésus dans nos vies. Ce soir, aujourd'hui, dites à Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir. Sur cette terre, il n'y a que de la mort, la déception, les illusions qui ne mènent à rien. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Parce que tu es la source de la vie. Tu es la vie. Tu es la mort et la résurrection pour moi. Je meurs à moi-même et je ressuscite en toi. Cette femme avait compris que ce cher Jésus était le grand roi, le sacrifice parfait qui donne la vie éternelle. C'est pour cela qu'à travers le monde, encore aujourd'hui, on parle d'elle. Et nous la verrons lorsque nous serons ressuscités. Son discernement peut aller plus loin si nous écoutons la parole. si nous écoutons la bonne parole de Dieu. Marc chapitre 14, verset 9. Marc 14, verset 8, elle a fait ce qu'elle a pu, ce qu'elle a pu. Tout ce qu'elle a pu, elle l'a fait. Elle est ressortie complètement fauchée. Elle avait la foi, ça, rien ne comptait d'autre. Fauchée, liquider tous ses biens pour Jésus. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. En mémoire, ça veut dire il faut comprendre ce que cette femme a fait. C'est pas simplement raconter une fois et puis ça passe. Ça, c'est du message superficiel. C'est comprendre en profondeur ce qu'elle était, ce qu'elle a fait et ce qu'elle nous dit. Elle nous dit tout simplement que nous devons nous donner tout à Jésus. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Celui qui veut la sauver me la donnera. Celui qui me la donnera la sauvera. Il n'y a pas de doute, cette femme avait compris la radicalité de l'évangile. Ce n'est pas qu'une question de parfum. Ça va beaucoup plus loin. Bien que ce parfum soit très précieux. Regardons dans Matthieu 26, verset 13. C'est très difficile, vous savez, de présenter le message évangile quand on a cette maladie, le Covid. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça se fera quand même. Matthieu 26, verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Partout. Et donc, toutes les nations connaissent ce qu'elle a fait. Pour ceux qui le désirent, je peux envoyer des photos du Pakistan où les chrétiens se sont réunis pour la Pâque, avant-hier, hier, aujourd'hui, et vous pouvez admirer la foi de ces braves gens, de ces chrétiens, ces enfants de Dieu. Si vous avez besoin pour vous édifier, s'il vous plaît, je peux vous les envoyer. Un petit clic sur le smartphone, c'est fait. Mais demandez-le. Et respectez ces personnes. Ne confiez pas ces images à n'importe qui. Voyons maintenant dans Éphésiens chapitre 2 le sens de tous ces événements. Le sens de cet événement. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, l'Israël spirituel évidemment, étrangers aux alliances, faites à Abraham, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ben, c'est encore beaucoup le cas ici en Europe, hein, ce verset-là. Chapitre 2, verset 12, Éphésiens. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, chers amis, être rapprochés par Christ, c'est-à-dire il nous prend par la main et il nous tire de là où nous sommes et il nous entraîne autre part. Regardez bien les anges à Sodome et Gomorrhe, il a fallu qu'ils attrapent Lot, sa femme et les filles, par la main et les tirer. Est-ce que vous acceptez d'être tiré hors de votre contexte, hors de votre culture, de vos fausses sécurités, de vos peurs, de vos incertitudes, de vos manies, de vos plaisirs, de vos libidos, est-ce que vous acceptez d'être entraîné par Jésus vers où? Regardez, vers où? Vous avez été rapproché par le sang de Christ. Hein, rapproché de qui? De Dieu le Père, de la vraie vie. Car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Nous ne sommes pas amis de Dieu, même si nous avons été baptisés, mariés, enterrés dans une église, quelle qu'elle soit. Nous ne sommes pas amis de Dieu, parce que nous n'avons pas donné notre vie, parce que nous n'avons pas compris le grand sacrifice de Jésus. Un acte religieux ne fait pas de nous un être sauvé. Et Dieu a renversé le mur d'inimitié, donc il rétablit l'amitié entre moi et lui grâce à Jésus qui me prend par la main, qui me conduit à mon Père. Pourquoi est-ce qu'il me conduit à mon Père? Eh bien, tout simplement, chers amis, parce que, au verset 18, par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il nous faut accepter le sacrifice de Jésus et recevoir l'Esprit Saint. Alors Jésus peut nous prendre par la main et conduire ses petits frères, oui, conduire ses petits frères, nous sommes les frères de Jésus, jusqu'au papa, jusque dans la maison paternelle. Ça a l'air simple. Eh bien, il faut le vivre. Il faut se laisser prendre par la main. Les deux mains. Allons dans Hébreux chapitre 9. Méditez tout le texte de Éphésiens 2, versets 13 à 22. Mais il est un peu complexe pour celui qui n'a pas l'habitude de la Bible. J'ai pris les faits marquants, les versets marquants. Hébreux 9, verset 22. J'ai du mal de lire. Hein. Je vieillis même au niveau des yeux. 9, 22. De tout. On fera avec. Presque tout d'après la loi de Moïse. Hein. Lévitique, Nombre, Exode, etc. Presque tout d'après la loi juive est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc, il y a des choses dans les cieux qui devaient être purifiées. C'est incroyable que Jésus même a apporté une purification autour du trône de son Père. Et il a amené un éclat, une majesté, une purification pour tous ceux qui sont autour du Père, c'est formidable. Ça me dépasse l'autorité de la purification de Jésus. J'étais en visite chez un ami, imam, et dans la conversation, tout se passait bien, puis tout d'un coup, je dois faire mes prières, il va au bout du salon, il fait mais sa carpette, et puis il fait sa prière, et moi j'attends, et puis je lui dis... Cher ami, je ne vais pas dire le prénom. Cher ami, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, pour ta famille et pour ta mosquée? Il me répond, Jean, la purification des péchés. Cet homme avait tout compris, que l'homme était impur, séparé de Dieu. Mais je dis, tu pries tous les jours, 5 fois par jour, est-ce que cette purification va se faire? Je l'espère, il me dit, je l'espère. Écoute, cher ami, elle l'est déjà faite à la croix. Jésus a fait la purification des péchés. Il a payé la dette pour que nous soyons purifiés gratuitement si nous donnons notre foi en lui. Tu pries 5 fois par jour pour quelque chose qui a déjà été obtenu. C'est quelque part un acte d'incrédulité. Mais j'honore ta foi, ta bonne foi. Je ne te critique pas. Fais comme ta conscience le dicte. Et par la suite, il venait très tardivement, 11h, minuit, pour lire la Bible avec Moshe, ici. Et puis il retournait dans son grenier pour lire la Bible. Je lui avais donné plusieurs Bibles, avec des notes de second, des notes de MacArthur, en arabe, en turc, en français. Quelle joie de voir un Nicodème venir, un homme de la loi, venir à Jésus et approfondir les Écritures. La purification des péchés, cet homme savait très bien qu'il n'y avait rien qui tournait rond dans sa mosquée. Et chers amis, dans nos églises, est-ce que ça tourne rond? Est-ce que nous avons réellement vécu la purification des péchés? Est-ce que nous la désirons tous les jours? Je vous remercie, je vous dis bon courage. Si vous refusez cette purification, vous n'en sortirez pas. C'est un mensonge que Dieu n'accepterait pas. Mais si vous avez déjà accepté d'être complètement lavé de vos péchés par Jésus et purifié par son sang, alors quelle joie pour moi, quelle joie pour les anges, quelle joie pour Dieu, pour Jésus, pour tous ceux qui vous entourent. Vous êtes un rayon de lumière, vous êtes une source de vie pour les autres. Quelle joie d'être purifié de ses péchés, de ne plus être dans la souillure du moi-je et tous ces déviations. Alors, continuons. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire, Hébreux 9, 24, dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Maintenant, pour nous. Maintenant, aujourd'hui à Pâques. Maintenant, pour nous. Ces deux mots-là, ne les oubliez jamais dans la semaine. Maintenant, pour nous. Maintenant, pour moi. Jésus, devant la face de Dieu, pour moi. Mais alors là, qu'est-ce que je fais? Je tourne le dos? Je quitte sa main? Analysons nos attitudes, notre façon d'être derrière Jésus. Analysons la façon dont nous donnons la main. Quand même pas comme Judas, je l'espère. À propos de tout ce texte de la Passion, je dois vous faire remarquer que la seule personne qui appelle Jésus Rabbi, c'est le traître. C'est Judas. Tous les autres appellent Jésus Seigneur, Maître. Mais Rabbi, il n'y a que Judas, il l'embrasse et l'appelle Rabbi. Nous pouvons reconnaître Jésus comme un maître de sagesse, un maître de sainteté. Mais est-il mon Seigneur à moi? Est-il mon directeur? Mon Dieu? Ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Hébreux 9, 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, des animaux. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, donc au moment de la mort à la croix, il apparaît une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Abolir le péché par son sacrifice. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voici donc le message d'espérance, le message costaud de Pâques. Le voilà. Hébreux, chapitre 9, versets 22 à 28. Quand Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce qui a été l'essentiel de la prédication? Qu'est-ce qui a été l'essentiel? Je vous dis que le message ici costaud et fondamental, mais comment cela s'est-il propagé? 1 Corinthiens 15. Ça s'est propagé d'une manière absolument simple. Simple, mais vrai. 500 frères, plus les 11, sont réunis sur le mont Tabor en Galilée. Et c'est pas brillant, Certains ont déjà un cœur très attaché à Jésus ressuscité parce qu'ils l'ont déjà vu. D'autres l'ont déjà vu, mais ils doutent encore. Ils sont dans la choucroute, comme on dit. Et ce qu'on voit, on voit aussi dans les églises. Il y a des personnes réellement attachées au Seigneur, il y en a des autres qui emboîtent le pas derrière, des suiveurs, puis il y en a d'autres, vraiment, on se demande quand est-ce que la lumière va venir dans leur vie. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est la condition même de l'annonce du salut. Je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, selon les Écritures, Jésus accomplit les Écritures. Ésaïe 53, Genèse chapitre 22, et bien d'autres, psaume 22. Qu'il a été enseveli, vous voyez que c'est très important. Le problème de la sépulture, de l'ensevelissement de Jésus, est extrêmement important dans le témoignage de la bonne nouvelle. Il a réellement été enseveli. Il ne s'est pas barré. Ce n'était pas un courant d'air qu'on n'a pas retrouvé. Il a réellement été crucifié et il a été mis dans un tombeau. Et la pierre, eh bien ce genre de pierre pèse 900 kg à 2 tonnes 4, suivant le cas des tombeaux. Pouvez-vous bouger à vous de sous-sol une pierre de 900 kg ou de 2 tonnes 4? Il n'y a pas de roulement à billes, hein, et pas d'huile, et il n'y a pas un petit moteur électrique, il y a un vérin hydraulique. Alors, il a été enseveli, il est ressuscité, égaïro, remis debout, le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, donc à l'apôtre Pierre, aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et puis Paul dit qu'il a apparu à lui. Il y a juste un petit verset, aux 12, il a apparu à Céphas, puis aux 12. Là, je me permets d'attendre que Jésus soit en face de moi pour lui demander, parce que le 12e était mort, il était pendu. Alors, où est le 12e qui est cité là? Je ne sais pas. On sait bien que Matthias a été choisi dans les actes des apôtres. C'est lui le 12e. Mais a-t-il vu Jésus ressuscité? Il se peut bien que oui, chers amis. Il se peut bien que oui, qu'il était là dans les 500. Alors bon, je ne remets pas en question la parole de Dieu.
Mais oui, mais puisqu'il était témoin, il était témoin de la mort et de la résurrection, c'est dit dans les actes.
Voilà.
Donc, il a été choisi sur ce.
Comme les deux filles qui sont à côté le disent, il était choisi parce qu'il était témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Alléluia. Ça lève un petit problème que j'avais dans ma tête. Chers amis, ce Jésus de Nazareth a de longs jours devant lui. Il a des délices abondantes dans son cœur, pour chacun de nous, en lui-même. Il est une richesse insoupçonnée de paix, de joie. C'est cela qu'il faut comprendre. Et c'est, je veux m'attarder un petit peu dans Ésaïe 53, verset 11. Je fais des détours, hein, excusez-moi, mais c'est un peu parfois comme ça avec moi. Le coronavirus n'arrange rien. Hein. Complètement à bout. Mais voilà, ça n'empêche pas que la parole de Dieu reste la première. 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11, donc écrit en 760 avant Jésus. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. À cause du travail de son âme, donc de son amour pour la volonté du Père. Rappelez-vous qu'au Gethsémani, le lieu du gras, le lieu du pressoir des olives, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Il demande à Dieu s'il n'y a pas une autre solution que son sacrifice. Et puis Dieu lui répond par un silence. Non, il n'y a pas d'autre solution, mon fils. « l'horreur sur la terre est tellement grande, le péché est tellement horrible, il faut un sacrifice d'immense valeur pour que je me réconcilie avec eux. Veux-tu accomplir ce sacrifice? Veux-tu accomplir? Alors il dit oui. Par amour. Voilà le travail de son âme. Par amour. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Par sa connaissance, par sa vie spirituelle, son autorité, par son sacrifice et sa rédemption et son existence éternelle maintenant, il peut pardonner aujourd'hui à beaucoup d'hommes. Il peut se charger de vos péchés, de mes péchés. Mais il faut s'en décharger. Il faut faire le choix de rompre avec. De ne plus adhérer à nos péchés. Alors, nous allons continuer dans cette petite méditation des longs jours de Jésus. Prenez le psaume 91. Psaume 91, verset 16. Dans le cœur de Jésus, l'immensité de son choix et la totale liberté de s'offrir en connaissance de l'horreur qu'on allait mettre sur lui, de le péché du monde, et les vacheries qu'on allait lui faire jusqu'au bout, l'horreur de sa mort, il dit oui, par amour de son Père et amour de nous. Psaume 91, verset 16. 91. Vous savez que c'est le psaume que Satan a essayé de trafiquer quand Jésus, dans Matthieu 4, est dans le désert et qu'il jeûne. Il a pris un verset pour tenter Jésus, pour faire de lui un Rambo, un Spider-Man, etc. Ça n'a pas marché parce que Jésus n'a pas voulu ça. Donc, psaume 91, verset 16. Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Alors, je vais retourner un peu en arrière. Il l'ordonnera à ses anges, verset 11, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, tu sortiras du tombeau. Mes anges viendront te sortir du tombeau. Ah oui, la pierre là. C'est pas possible. Il avait des bandes autour de lui. Comment il peut pousser la pierre? Et les femmes, comment ils auraient pu bouger une pierre pareille? Alors, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc, tu vas briser le pouvoir de Satan, le pouvoir de celui qui a la mort. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Tout ce qui est en Jésus, comme trésor d'amour entre lui et le Père, est quelque chose que Jésus veut nous partager. La dimension spirituelle très intérieure de la foi, chers amis, est extrêmement nécessaire aujourd'hui. Il faut retourner aux profondeurs de la foi, aux profondeurs de l'amour de Dieu. Et prenez Romains 8, nous avons été éduqués au superficiel. Je cours, je vole, ah, j'ai encore ci et ça à faire et tout. Mais si un jour il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'auto, il n'y a plus de boulot, qu'est-ce qu'on fera? Celui qui aura Jésus, il tiendra le coup, les autres vont tous s'entretuer. C'est ça les tribulations. Romains 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La puissance de l'amour divin en Jésus, pour toi, mon ami, pour vous, pour moi, la puissance est incommensurable. Son amour est merveilleux et prodigieux. Il est plus élevé que toutes les montagnes de la terre. Faites-en l'expérience. Demandez à Dieu cette grâce d'être bouleversé, ce miracle intérieur de découvrir l'immense amour, l'immense divin amour de Jésus pour vous. Et le côté misérable de votre âme, de vos pensées, confessez-le devant lui. Donnez-vous ensuite entièrement à lui. Au psaume 16, je vais bientôt terminer. Au psaume 16, verset 11. Dans le psaume 16, nous avons l'annonce d'un phénomène qui a été unique. C'est celui de Jésus, dont le corps est lacéré, dont le cœur est transpercé, dont tout le sang est vidé. Tout est abîmé, aucune bactérie, rien n'a attaqué son corps. Rien, aucune corruption n'a touché ce corps abîmé pour nos péchés. Alors, le psaume 16, je vais commencer au verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Donc l'âme de Jésus, en tant qu'homme, est restée dans le corps. Même si le corps ne vivait plus, l'âme est restée là. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Il n'est pas pécheur. Pourquoi il irait avec les morts? Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Pas de vers, pas de mouches, pas de petits vers, pas de bactéries. Tu me feras connaître le sentier. Et il n'y avait pas de groupe frigo pour maintenir le corps dans cet état-là. C'est la main de Dieu. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voici pour Jésus. Le sentier de la vie passait par ce chemin-là, de la mort et la résurrection. Le sentier de la vie pour qui? Mais il avait la vie, lui. Pour nous! Et il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Jésus confesse qu'il n'y a rien de mieux que d'être avec le Père. Chers amis, en conséquence, voulez-vous d'abondantes joies aujourd'hui? Voulez-vous d'abondantes joies devant la face de Dieu? Des délices éternelles à la droite de Dieu? Voulez-vous en conséquence accepter la bonne nouvelle? Une véritable bonne nouvelle, une réalité intérieure, spirituelle, puissante, celle qui a créé l'univers et qui vous donne la vie et la résurrection pour toujours. Bon dimanche à vous et à demain à 18h.